simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Projection débat autour du film du QR code dans les Calanques. Sa réalisatrice, NG, avec le concours d'un autre membre du blog d'Art Debout, se proposait ainsi avec le documentaire de mettre en discussion l'utilisation de la dite technologie du QR code. Mais plus globalement, c'était d'interroger la gouvernance et la fréquentation des espaces naturels, leur privatisation, soulevant au passage les contradictions existantes entre la finalité affichée et la réalité. Le documentaire que vous allez entendre ici en première partie d'émission s'inscrit en outre à la suite d'un travail réalisé par un collectif marseillais nommé Le Platane et qui a étudié tant les tenants et aboutissants de l'instauration du QR code que la gestion du parc national des Calanques. La seconde partie d'émission, quant à elle, donnera à entendre des morceaux choisis des discussions qui ont suivi les projections. Et sans plus d'introduction, nous vous proposons de passer directement au contenu de l'émission. Bonne écoute.
C'est mon entrée un peu secrète dans les Calanques. Et là, on voit aussi les Baumettes. Les Baumettes, c'est la construction de la nouvelle prison. Historiquement, on rejetait en dehors de Marseille ce qu'on ne voulait pas voir, donc la prison est là. Et ici, il y a le campus de Lumigny. Au-delà, il y a le col de Sugiton et la calanque de Sugiton. Cette année, c'est très particulier. J'ai pas pu encore aller à Sugiton. Ces derniers jours, j'allais à Morgiou, la calanque de Morgiou. Sugiton, cette année, il faut réserver. Il faut présenter un QR code. J'ai essayé de réserver, je n'ai jamais réussi. Ils disent sur le site que certains jours d'été, il y a 2500 personnes à Sugiton. Et donc là, ils ont limité à 400 personnes. Donc, il faut aller sur le site, il faut des moyens informatiques, il faut arriver à réserver. Et ensuite, il faut pouvoir présenter un QR code. C'est une première en France de réservation, de présentation de QR code dans la nature.
Eux, je les avais encore jamais vus. Alors, il m'a dit qu'en fait, c'est l'ONF. Ils ont cette voiture qui a 650 litres d'eau. Je lui ai aussi demandé, parce qu'il y avait un ballon dans le ciel, un gros ballon. Vous voyez que ça brillait en dessous. C'était un ballon stationnaire avec des caméras qui surveilleraient des départs de feu. En plus, donc, des scouts qui, eux, patrouillent. Moi, mes questions, c'est que d'habitude, je peux aller à Sugiton sans problème. Là, ils ont limité à 400 personnes. C'est compliqué de réserver, il faut passer par internet, moi j'ai pas de smartphone. Et là j'ai voulu le faire, on est jeudi, et en fait aucune possibilité, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. J'avais lu un article, les Calanques c'est fini, et en fait on a l'impression que ça va devenir un peu un parc à l'américaine, avec une entrée à QR code et compagnie. Ça m'avait un peu traumatisé cet article. Aussi l'idée qu'il y ait des caméras de surveillance derrière les arbres, on a envie d'aller pisser tranquille quoi. J'en ai parlé à plusieurs personnes depuis que je suis là. Beaucoup de gens disent, voilà, c'est devenu trop. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller à Sugiton et d'essayer d'éviter la foule. Soit j'y vais très tôt, soit j'y vais à 18h. Quand j'y allais à 18h, il y avait vraiment une foule qui remontait. Donc on peut pas dire qu'il y a rien. Ils parlent d'érosion, c'est possible. J'ai déjà vu des gens au bord de la mer qui ramassent les plastiques pour les remonter, qui ramassent les mégots. Il y en a une fois, je viens de ramasser 500 mégots. Le gros problème du tourisme, c'est que tout le monde veut aller au même endroit. Et que, effectivement, le parc a essayé d'attirer les gens, ils y sont arrivés. Mais que maintenant, il s'agirait plutôt de démarketing, des stratégies de démarketing. Donc, ce que m'ont expliqué les scouts, ils sont arrivés là après un gros incendie de 79, ils ont aidé à replanter et depuis, ils surveillent la forêt l'été. Il y a des Jeux Olympiques qui sont prévus en 2024 à Paris. Ça rejoint un peu la thématique ici. On sait que ces JO vont être l'occasion de développer tous les systèmes sécuritaires, vidéosurveillance, passe, QR code et compagnie. Alors, les scouts m'ont aussi expliqué que les calanques avaient été fermées 10 jours. C'était en juillet. Il n'y avait plus assez de canadairs. Ils étaient tous partis sur les feux en Gironde. Quand même se questionner sur le nombre de pompiers suspendus. On voit l'état des hôpitaux, 15 000 suspendus reconnus par le gouvernement, mais beaucoup disent 50 000. Et beaucoup ont démissionné aussi. J'ai croisé quelqu'un, c'est possible que plus personne ne vienne dans les calanques parce que c'est devenu trop compliqué. Lui, il est un habitant proche du parc. Et on voit que c'est quand même ultra sec parce que d'habitude je trouve de la mauve ici. Bon, là il y a juste le fenouil qui a survécu, qui est très beau. Hop, j'en mangeais un peu. J'aime beaucoup ce passage qui amène derrière Cage, la nouvelle école de commerce, dont un ami me disait qu'elle aurait pas dû être construite parce qu'elle double le campus en fait. Donc il connaît une des entreprises.
Interxion.
C'est une entreprise donc qui est partenaire des calanques. Et il m'a dit que ça leur sert à gagner des points en fait carbone.
Interxion.
Il a dit que c'est une entreprise spécialisée en câblage et en installation de data center et qui sont extrêmement à l'affût de tous les lieux où ils peuvent les mettre et notamment qu'ils ont déjà construit 4 ou 5 dans le port de Marseille parce que le problème des data centers c'est d'être refroidi. À la Cage Business School, une énorme école, un énorme complexe qui soi-disant aurait dû être écologiste, etc. Et en fait, ils ont modifié la colline, ils ont massacré des arbres, des rochers, la structure de la colline. Elle n'aurait pas dû être construite parce qu'elle double le campus, en fait. Ça fait très américain. On se demande si ça va être géré comme aux États-Unis. Rentre dans le parc, on peut marcher sur un seul chemin. Je viens de croiser deux jeunes à qui j'ai dit « Waouh, il n'y a personne ». Ils me disent « Ah oui, c'est parce qu'hier, il n'a pas fait beau qu'il n'y a personne ». Je leur dis « Mais non, c'est parce qu'il faut réserver ». Ils n'étaient pas au courant. Ils sont devant la barrière, ils hésitent. Deux jeunes hommes qui sont arrivés, on vient de se faire refouler. Il y a un barrage. Déchets, j'amène, je ramène. Diffusion de musique interdite. Vidéo protection et vidéo verbalisation espace public. Réserver, c'est préserver. J'ai passé le barrage, j'ai parlé très longtemps à une jeune femme embauchée saisonnière. Elle a utilisé le mot le démarketing, les stratégies de démarketing. Tout le monde voulant aller au même endroit. Ce qui m'avait marqué, c'était le partenaire du parc.
Interxion.
Qui fait des data centers. Et là, elle m'a dit oui, certes, on peut être très en colère contre ça. Ça a un coût. Assez énorme. Ces gens-là amènent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont très critiques, même dans l'équipe, on est tel ou tel partenaire. Avec cet argent, on peut mettre en place des politiques pour sauver des espaces. Par rapport à ces mécènes, elles ne croyaient pas à une situation où tout est bien ou tout est mal. Ils offraient de l'argent et qu'avec cet argent, on pouvait peut-être en faire quelque chose de bien. Elle a quand même dit « Je comprends qu'on soit très en colère contre ça ». C'est toujours la question, est-ce que c'est instrumentalisé ou pas ? Elle dit que tous les parcs de France sont en train de regarder leur expérience, qu'ils vont en faire un bilan. J'ai croisé deux jeunes filles, elles y sont allées ce matin tôt, il n'y avait vraiment personne. C'était assez incroyable comme expérience, elles étaient contentes. J'aime beaucoup ce petit sentier qui est parallèle à l'autre grand sentier. Je lui ai demandé s'il y avait des fois des gens qui sont vraiment en colère. Parce que là, je croise plutôt des gens qui finalement disent « Bah oui, il faut protéger la nature, l'humain détruit, on doit protéger. » Là, j'ai croisé deux filles qui sont complètement paumées, qui a un côté très montagne ici. J'ai aussi parlé avec une famille. Vous allez être bloqués plus bas parce que vous voulez aller à Sugiton. Et ils m'ont dit pourquoi on bloque. Alors, je leur ai dit « Bon, c'est à cause de l'érosion. » Ils m'ont dit « C'est quoi l'érosion ?» Donc je me retrouve à faire de la médiation et à expliquer qu'est-ce que c'est l'érosion. Beaucoup de gens qui sont un peu perdus en fait, sont arrivés d'un côté ou de l'autre. On n'est pas obligé de passer par le parking de Lumini. Il y a toujours cette ambiance un peu de, je sais pas, tellement étrange. D'habitude, c'est un peu une autoroute ici, quoi. À cette heure-là, à 17h, le 18 août, je ressens une certaine fatigue. L'intensité des discussions, de la conscience des enjeux. Lundi 22 août, donc l'opération contrôle de la calanque de Sugiton est terminée. Il y a un peu plus de voitures qu'il y a deux jours, mais c'est vraiment pas la foule.
Vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde?
Ouais, ouais, voilà.
Ah ouais, vous êtes allé en bas?
Ouais, on est allé en bas.
Ils étalent un peu, des fois on a des gros groupes qui arrivent et du coup ça se concentre au fond de la calanque.
Donc j'aurais posé la question des bouts rouges, parce que dans l'article de PMO, les touristes avec leur crème solaire ne feront jamais autant de mal que les bouts rouges, et les bouts rouges, il y en a toujours 10% qui y est rejeté. Donc eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de bouts rouges exactement. L'usine a été obligée de traiter. Ils rejettent des sortes de blocs qui créent une pollution aérienne. Et ils les rejettent vers Gardanne, Bouc-Bélair, m'a dit un ami qui allait voir. Et du coup, les riverains se plaignent parce que ça fait une grosse pollution. Et il y aurait encore un rejet.
Ça y est, je suis au col de Sugiton, je suis à une demi-heure du bas, et là je viens de croiser une famille, oui il y a vraiment du monde, eux ils sont en train de remonter, ils ont pique-niqué tranquille, et puis ils croisent beaucoup de gens qui sont en train de descendre. J'aime bien qu'il y ait un peu de monde, hein. J'avais l'impression d'être sur la lune il y a deux jours. C'est l'été, c'est le 22 août, déjà il n'y a plus trop de cigales depuis la pluie, je retrouve ce pain que j'aime beaucoup, et j'ai l'impression de reprendre pied. Comme reprendre possession d'un territoire qu'on veut vous enlever. Ça correspond un peu à ça. Hein. J'ai parlé à une jeune fille espagnole et elle me disait que la seule fois qu'elle a pu réserver, le parc a été fermé à cause du vent. Donc déjà, c'est compliqué de réserver. Quand j'ai dit d'ailleurs à un ami qui est riverain des Calanques, c'est limité à 8 fois, ça l'a rendu furax. C'est des infos assez simples en fait, mais c'est assez dur de comprendre. Chaque jour, les calanques, c'est le préfet qui décide si c'est ouvert ou pas. C'est même pas le parc. Et là, il y a les falaises d'escalade. Je fais de l'escalade. C'est même un terrain d'entraînement pour les guides. Ils m'ont dit plusieurs fois, les gardes, il manque 1 mètre de terre. Les racines des arbres sont à nu. Celui-là et puis le précédent ne sont pas à nu. C'est le premier chemin dont on voit qu'il est protégé. Il y a des petites barrières un peu partout. Ils se plaignent que ça n'est pas respecté. Ne pas franchir, zone de régénération de la végétation. Donc si l'humain est exclu à cause de l'érosion, par exemple, c'est une zone où on ne doit pas aller. Je nie pas que ça s'érode, hein, mais je veux comprendre, essayer de comprendre par moi-même ce qui se passe. Alors là, c'est la calanque des pierres tombées. C'est pas difficile de savoir pourquoi. Je ne me mettrai pas sous cette falaise. Il y a des pierres qui peuvent tomber. Et il y a déjà une personne qui est morte, en fait. Moi, je dirais qu'il n'y a pas trop de monde, et même les bateaux. J'en ai déjà vu au moins une quinzaine. Alors, il est possible que ça soit cet endroit-là, quand il parle d'érosion. L'arbre du haut, il a des racines un peu en l'air. Il faut savoir qu'il y a une érosion naturelle aussi. Il y a souvent des pins qui ont les racines en l'air, parce que la mer monte, parce qu'il y a des pluies diluviennes et qui ravagent la terre. Là, on voit que ces arbres sont très bien enracinés et qu'en fait, on peut plus aller là. Ce qui pose aussi un problème d'ombre. On est obligé, on est ramené dans des zones en plein cagnard. On n'a pas accès à tous les endroits. On est du coup un peu tassé comme des moutons. C'est difficile de trouver un endroit pour se reposer. J'ai mis mon hamac dans les arbres et j'en ai été chassée par la police de l'environnement. Police de l'environnement qui m'a dit que j'avais enjambé une barrière. J'aurais dit, mais non, j'ai pas enjambé de barrière. Je suis juste allée au bord de la mer, j'ai remonté un peu. Ils m'ont dit, ah, mais ici, on n'a pas le droit.
Voilà, là, c'est 18h, je remonte. C'est assez merveilleux, en fait. Et le jeu, ici, c'est de sauter le plus haut possible. Alors, des gens qui sautent de 20 mètres, je pense. Et tout le monde encourage, tout le monde claque des mains, c'est assez drôle. Et c'est vrai qu'il y avait du monde, mais voilà, c'est Sugiton, quoi. C'est des gens jeunes, c'est des gens qui sautent, qui nagent, c'est sportif de venir ici déjà.
Je veux aller à Podesta et je suis descendue en bus avec le 23 à la Cayolle. Je suis au parking de la Cayolle. Les gardes avec qui j'ai parlé la dernière fois et qui m'ont donné cette carte, la carte des sentiers du parc, et on voit réservation Sugiton, le fameux QR code, il y a une application Calanque. Ils m'ont dit pour les poissons, le mieux c'est Podesta. Il y a une zone là de non-prélèvement, donc on la voit là en plus clair. Mais entre-temps, j'ai appris que les eaux usées de Marseille se jettent là, dans la calanque de Cortiou. Les pêcheurs ont l'habitude d'aller là parce que les poissons aiment les détritus, ils se nourrissent avec ça. Donc je me demande si la zone de non-prélèvement est là parce qu'il y a les eaux usées et qu'il y avait déjà beaucoup de poissons, ou peut-être parce qu'ils considèrent que c'est pas bon pour la santé de pêcher le poisson là. Enfin, j'en sais rien. Je vais aller voir.
Donc là, ils annoncent la station d'épuration, je suis sur le parking, et je parlais hier avec un ami, il me parlait d'une amie à lui, Arlette Hera, chercheuse, urbaniste, architecte, et elle travaille sur les conflits qui sont liés à la création du parc, réhabilitation des trois digesteurs. Il me disait aussi qu'il avait discuté avec quelqu'un qui s'occupe des eaux usées, que certains traitements rendent stériles les saumons. Et ce matin, la surprise de voir que le maire de Marseille lançait lui-même une pétition contre les énormes bateaux qui asphyxient Marseille. Et il a ajouté un truc curieux, il va y avoir un conflit sur l'électricité, parce qu'il n'y en a pas assez pour à la fois les data centers et ces énormes bateaux. Je suis au col de Sormioux. On voit bien que c'est un parc périurbain et la plupart des gens vont descendre à la calanque de Sormioux. En bas, on voit quelques voitures, ça brille, et les voitures des gens qui ont des cabanons. Donc là, je marche sur le GR, je fais attention de ne pas me paumer et je reconnais les îles, les trois îles là, qu'on voit sur la carte, toute pêche interdite, et c'est dans la calanque de Cortiou que se jettent les eaux usées de tout Marseille. Là, je sens que ça pue vraiment. Je sens que ça pue, il y a une odeur. Ah, une odeur bizarre. Mes amis m'avaient dit, tu verras, ça fait une grosse trace noire à cet endroit-là. Franchement, c'est pas évident. Par contre, je sens quelque chose d'étrange plutôt que je vois. C'est assez impressionnant parce que je croise personne. Je n'ai jamais montré de passe. J'ai décidé que je ne voulais pas à aucun prix rentrer là-dedans. J'ai aussi décidé, à l'issue de ces 2 ans, de balancer mon smartphone. Et j'en reprendrai pas. Il faut qu'il y ait des gens qui disent non à tout ça. J'ai pas envie d'être un transhumain. Pas non plus envie d'être un mouton dans un parc.
Là, je suis sur le chemin du retour et bon, je suppose que c'est là que se jettent les eaux usées. Peut-être c'est indiqué par la bouée jaune et on voit qu'il y a une limite d'eau. En tout cas, de fait, à Podesta, il y a plus de poissons. C'est pas spécialement de Posidonie, mais il y a des petits poissons qui grattent le sable. 19h, donc ils vont ouvrir bientôt les barrières. Il y avait des flics, il y avait aussi juste avant des taxis marseillais qui parlaient. Puis là, il y a trois personnes de la médiation. Ça fait longtemps que je les ai pas vues, je les voyais quand j'allais à Malmousse.
Arlette Hera, architecte, urbaniste. J'ai pu la rencontrer, on a beaucoup parlé pendant 3 heures. Elle travaille sur les inégalités, l'effort environnemental.
Et lisons aussitôt des passages de ladite chercheuse.
La population marseillaise a certes investi de longue date le massif des Calanques comme espace de prélèvement, de ressourcement et de loisirs. En conclure pour autant que les Calanques seraient exposées à l'assaut des populations marseillaises procède d'un fantasme socialement construit. Les peurs de surfréquentation glissent dès lors vers une stigmatisation de la malfréquentation. Et ça, c'est dit dès 2012 à la création du parc. Les oppositions au renforcement réglementaire sont exacerbées par un sentiment d'injustice. Les rejets de la station d'épuration de la ville de Marseille dans la calanque de Cortiou et ceux des boues rouges industrielles dans la rade de Cassis sont tout particulièrement pointés du doigt. Par exemple, ce couple de plaisanciers s'insurge. À partir de là, je trouve complètement anormal qu'il y ait des rejets comme ça, et alors on crée un parc naturel, tu vois. On a l'impression qu'on renvoie le problème sur d'autres, quoi, sur le peuple. Alors qu'en fait, le peuple, lui, il a besoin de ses calanques, parce que c'est ses calanques à lui, c'est la liberté, et tu vois, c'est son oxygène. Et il parle de liberté de circuler. Je me sens totalement solidaire de cette analyse. Le summum, c'est le QR code, bien sûr, c'est la traçabilité des gens, c'est la perte de l'anonymat. On va dans la nature qui devrait être une anti-ville, en fait, on doit montrer un QR code, c'est-à-dire qu'on sait qui vient là, où il est, à quel moment, etc. On va pouvoir faire des analyses statistiques. Barbara Stiegler parle de transformation de la société depuis l'ère Covid. Un, la traçabilité, la numérisation de tout, et deux, l'innovation. Là, on a les deux. Pourquoi personne ne nous parle de solutions pour pomper les boues rouges? Qui définit l'effort environnemental demandé aux usagers et selon quels principes? Les premières formulations en termes de capacité de charge, CC, sont avancées dans les années 1920-1930. Des considérations en apparence méthodologiques relèvent in fine de choix politiques, culturels, économiques, idéologiques. Une phrase donc des années 60. Érosion, érosion, quel mot magique dressé en épouvantail pour justifier la spoliation de paisibles agriculteurs. Voilà, donc un concept utilisé pour exproprier. C'est pareil, on nous dit l'érosion, le piétinement, vous êtes trop nombreux et hop, chut, exit, on vous exclut. Pourquoi personne ne nous parle de solutions pour pomper les boues rouges?
Puis reprenant sa lecture.
Là, je lis le lancement du projet Prométhée sur le site du Parc National des Calanques. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à lire ça. Pour moi, c'est de l'anti-écologie. En fait. Des acteurs du numérique et de l'environnement ont décidé de s'associer. Donc, il y a Interxion, Schneider Electric, EcoAct du groupe Atos. Que les Posidonies, qui sont l'oxygène de la Méditerranée, des capacités exceptionnelles en termes de stockage du carbone. 3 à 5 fois plus que les forêts tropicales. Le summum, pour moi. Si le projet aboutit, le parc national pourra intégrer le marché carbone en tant que bénéficiaire. Je trouve ça monstrueux, en fait, ça me fait gerber. J'ai vraiment du mal à lire ça. J'essaye de partager en espérant trouver des gens qui comprennent. On va permettre à Interxion de polluer en échange de points carbone. On pollue en contrôlant des QR codes sur des smartphones, en obligeant des gens à utiliser le numérique. Le numérique est une énorme pollution. On favorise des vieilles pollutions et on en construit des nouvelles.
Et il me semble qu'il y a finalement une ligne assez logique. Le parc est créé en 2012. En 2014, ils permettent aux boues rouges de continuer à polluer alors qu'il y a déjà 30 tonnes d'arsenic, de métaux lourds déversés depuis les années 60. En 2016, 2017, 2018, ils ont permis la construction au sein du parc d'une énorme école de commerce privée. Et ensuite, ils vont nous dire qu'il y a trop de monde, enfin, on marche sur la tête, quoi. En 2022, ils contrôlent les QR codes avec des partenaires comme Interxion. Et on voit que le projet qu'ils développent, c'est un projet d'exploitation de la Posidonie. Et ils ont une volonté d'intégrer le marché des points carbone. Vraiment une ligne ultra polluante, en fait. Je dirais spirituellement polluante. C'est tout qui est atteint. C'est exactement le contraire de ce qu'on attend d'un parc. Une zone un peu protégée de toute la pollution mentale et physique qui est accumulée dans cette société.
Là, on est fin novembre. Je ramasse les arbouses et j'espère que le parc ne va pas réussir à exploiter ces arbouses comme il veut exploiter les Posidonies. Qu'on puisse juste profiter d'un don absolument gratuit, c'est juste merveilleux. Et qu'on arrête de nous bourrer le crâne avec le fait que les Posidonies, qui sont l'oxygène de la Méditerranée, piègent 7 fois plus de carbone et que les entreprises qui construisent des data centers vont pouvoir foutre un peu plus de merde grâce au trafic des points carbone. Tout ça, c'est lamentable, quoi. C'est juste n'importe quoi.
Un système
nous allons passer à la seconde partie d'émission donnant à entendre des morceaux choisis issus des discussions ayant suivi la projection du documentaire du QR code dans les Calanques.
On sait le chemin que l'on va prendre, mais on ne sait pas toujours si tout à coup on va trouver quelque chose de barré. Ça me semble mais inconcevable, quoi.
Le Platane dénonce ça beaucoup au nom de la spontanéité. Enfin, ils utilisent ce terme. C'est-à-dire que ça interdit tout. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans les Calanques, j'ai envie de faire ça. On ne peut pas bifurquer de chemin, on ne peut pas aller là. Enfin.
Et en même temps, l'hyperfréquentation de lieux de nature, c'est un problème quand même aussi, parce que ça détruit la nature. Et c'est aussi pas agréable d'aller dans un lieu où il y a... mais c'est pareil dans Paris. Hein, si on va dans un musée, vous allez voir la Joconde. Franchement, c'est pas forcément agréable. D'ailleurs, les Parisiens ne vont pas dans les lieux touristiques à cause de ça. Hein. Donc c'est un peu la même chose. C'est un peu triste d'avoir un QR code pour aller dans la nature, parce que la nature est à tout le monde. Et ou alors après, sous quels critères on va faire ça?
On ne peut pas résoudre par oui ou non. On dit la nature, mais c'est un parc.
Ouais. Ouais.
En plus, un parc périurbain.
Ouais.
Donc il n'y a pas de solution évidente de quoi faire avec les Calanques. Le problème, c'est déjà la ville, quoi. Donc
ouais.
Trouver que faire de la nature autour de la ville, c'est compliqué de toute manière.
Ouais. Ouais.
Et moi, je voulais élargir un peu la question sur le bas. En même temps qu'on a publié ça sur Art Debout, on a publié un autre texte sur la résilience, sur l'idéologie de la résilience. Bon, on a tous un peu entendu parler. Et c'était au sujet d'un type qui a fait une conférence sur la douche de 3 minutes de trop. Disant, oui, c'est pas bien, on prend des douches de 3 minutes de trop, mais on n'y arrive pas, c'est pas de notre faute. Moi aussi, j'essaye, mais on est fait comme ça, notre cerveau est fait comme ça, on n'y arrive pas. Donc, il faut qu'on nous contrôle, parce qu'on va pas y arriver. Et il finissait sa conférence par dire, il nous faut un gouvernement mondial. Voilà, donc là, j'ai un espèce de raccourci. Et effectivement, il y a cette idée de c'est à nous de résoudre les problèmes que eux ils ont créés, c'est dans les industriels, les pollueurs. C'est nous qui devons les résoudre et c'est nous qui sommes coupables. Et là, il y a un truc, moi, je lisais cet après-midi que je trouve vachement intéressant, c'est je lisais Agamben, qui a écrit sur Kafka. Et sur Kafka, il dit à propos du procès de Kafka, en fait, ce qui est en question, c'est la question de la culpabilité. Et que la question de la culpabilité, on nous l'a vraiment implémentée dans le cerveau depuis le Moyen-Âge avec l'Inquisition. Donc depuis qu'on est enfant, on nous convainc qu'on fait mal, quoi, grosso modo. Et ça, c'est effectivement toute notre civilisation qui a été faite comme ça. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les Calanques plein de gens qui disent « Oui, c'est vrai, il y a trop de monde, c'est pas bon pour la nature. » Alors oui, bien sûr, on peut dire « Il y a trop de monde, c'est pas bon pour la nature, d'accord. » Mais résolvons d'abord les problèmes énormes de pollution et puis les problèmes d'urbanisme. Et puis après, on verra si les gens sont coupables de prendre une douche de 3 minutes de trop. Ça viendra. Et si d'ailleurs les gens sont coupables de prendre une douche de 3 minutes de trop, il y a 30 ans qu'on aurait dû mettre au point des systèmes de récupération d'eau. Ça devrait être évident. Mais rien n'a été fait. Rien. Donc ça veut dire que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde.
Du coup, j'ai plusieurs choses à dire. Par rapport à la résilience, c'est une idéologie. Il y a Thierry Ribaud qui a travaillé là-dessus. Ça vise à vivre avec la catastrophe et plutôt que de critiquer, voire se révolter, demander des comptes, en fait, il faut s'adapter. Donc, par exemple, puisque ça a été expérimenté au Japon, c'est de vivre avec la radiation et donc d'avoir, par exemple, un compteur GEGR pour mesurer ou pas la radioactivité. Puisque ce qui est mis en place est fait du fait des conséquences de notre société. Mais plutôt que d'agir sur la cause, en fait, ils sont simplement en train de gérer les conséquences. La deuxième chose, c'est que à Marseille, il y a beaucoup d'habitants qui n'ont pas vraiment accès à la mer et il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs aussi qui ne savent pas nager. Et ce système de réservation, de validation, c'est pas quelque chose qui va encourager ça. Et il manque des piscines à Marseille pour apprendre à nager. Une autre chose que je voulais dire, c'est que le système de réservation de validation, en fait, permet d'intégrer les écosystèmes dans un système algorithmique, d'avoir des modèles et en fait de mettre les forêts, mais les calanques, mais c'est aussi la ville, nous-mêmes, nos données, puisqu'on produit des données constamment, mais de créer un modèle et d'avoir une sorte de gouvernance performative qui serait pour le mieux en disant, bah, en fait, la forêt, du fait du réchauffement climatique, du fait des activités humaines, et la calanque, elle pâtit, et la forêt peut-être ne serait plus à même de s'auto-réguler, et donc on va l'y aider, on va superviser tout ça pour que ce soit efficient. Et donc ça se voit donc là avec le QR code, mais c'est aussi l'intelligence artificielle utilisée par les pompiers pour faire des modèles de prédiction des incendies ou de détection automatisée des feux. C'est aussi de l'aide à la décision pour les gardes forestiers, parce que normalement la forêt, c'est pas juste là pour maintenir un statu quo, c'est vivant, c'est pas du patrimoine, c'est pas des points carbone à collecter, enfin c'est quelque chose en fait dont on devrait prendre soin. Il manque des thunes pour les pompiers. NG disait que les pompiers, il y a quand même pas mal de gens, je sais pas dans quelle proportion, mais qu'il manquait des pompiers. L'ONF, il manque de la thune et des gens. Donc il y a un vrai problème qui se pose à ce niveau-là.
Je voulais parler des principales ennemis de la Posidonie. C'est les ancres de bateaux et surtout des yachts de milliardaires qui arrachent la Posidonie de façon absolument irréversible sur les fonds marins. Voilà. Juste ça. Je voulais dire aussi, pendant le confinement, justement, ce qui m'avait. Une des choses, une des mille, une chose qui m'avait beaucoup frappée, il y avait eu des reportages, des articles très intéressants dans le reporter là-dessus, c'est que finalement, les espaces naturels, justement, les seuls qui avaient accès, c'était les flics. Et ils avaient tous ces espaces-là, pour eux, tout seuls, littéralement. Et il y avait des scènes du genre un hélicoptère contre un jogger et tout, qui rappelait vraiment le film de Hitchcock, quoi.
Bonjour, merci pour ce film. J'ai une réponse et une question concernant un parc qui est un parc public qui est autour de la Sagrada Familia à Barcelone. Il y a eu, je crois bien, la mise en place d'une restriction d'accès. On a dit il y a trop de monde et un système a été mis en place, payant je crois, pour éviter que quelqu'un entre en contournant le barrage, par exemple en passant dans les buissons. Est-ce qu'il y a des grilles ?
Il y a deux barrages, en fait. Le premier, si tu dis que tu vas vers Morgiou, par exemple, tu peux le passer. Mais la nana m'a dit, si les gens ne lui disent pas, elle les refoule. Mais parce qu'il n'y a que deux calanques qui sont pour le moment... donc au niveau du premier, tu peux passer. Le deuxième, il barre vraiment le chemin qui descend à la calanque. Et là, tu ne peux pas juste passer à côté. C'est vraiment barré entre deux falaises. Par contre, tu peux, par en bas, si tu descends au bord de la mer et tu fais tout le long des rochers, tu peux éventuellement arriver à Sugiton. Mais là, moi, par exemple, j'ai croisé, c'est ce que j'explique, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais à un moment donné, j'ai mis mon hamac. Et paf, la police de l'environnement est venue. En fait, j'ai essayé d'énumérer. Il y a les scouts qui sont là, il y a les gens qui gardent le parc, qui viennent, qui observent, qui peuvent intervenir. Des fois, c'est bien qu'ils interviennent parce qu'il y a des gens qui fument, par exemple, tu vois, ce qui est quand même assez aberrant. Mais donc, il y a beaucoup de formes de surveillance, oui. Après, oui, peut-être tu peux passer à travers un jour. Où... Oui, il y a un autre chemin.
Alors quand même, Marseille, ils sont sur des grands projets de restructuration, puisqu'il y a le truc européen sur Marseille et tout ça. Donc est-ce que ça, du coup, ça rentre aussi, ce projet de data center, est-ce que ça rentre aussi dans ce projet plus vaste de Marseille, de raccorder Marseille un petit peu à la Méditerranée, mais de façon moderne, on va dire, quoi.
Là, je ne peux pas te répondre. Moi, ce que je peux te dire, c'est que Marseille 2013, j'ai vu le changement, c'est clair, hein. Parce que tout à l'heure, vous disiez, il y a trop de monde, mais c'est trop de monde, on l'a amené aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils parlent de stratégie de démarketing maintenant, pour faire l'inverse de ce qu'ils ont fait. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée, mais je n'ai pas fouillé assez, je ne connais pas le projet dont tu parles. Quand cet ami m'a dit, il va y avoir un conflit sur l'électricité entre les gros bateaux et les data centers. Donc j'ai commencé à me dire, mais c'est peut-être pour ça qu'on veut nous restreindre, parce que le numérique va prendre tellement d'électricité, les énormes bateaux aussi, que peut-être il y a des vrais les problèmes d'avenir, c'est juste... Et ça, moi, j'ai pas compté, tu vois. Le Platane, il donnait des indications de... Alors, c'est un groupe qui est à Marseille, qui se réunirait autour d'un platane, qui avait écrit un texte qui est publié dans PMO, et je m'appuie sur eux, et qui reprenaient tous ces problèmes-là. Donc moi, j'ai essayé de voir si ce qu'ils disaient était vrai, tu vois, déjà dans un premier temps. Puis j'ai rencontré Arlette Herra, qui elle est chercheuse, donc qui m'a donné un autre point.
Enfin, moi, ce que je trouve insupportable, c'est l'hypocrisie de tout ça, effectivement. Parce que d'un côté, on nous culpabilise, voilà, c'est ce que tu disais, genre on abîme les espaces naturels, et d'un autre côté, bah, y a ces usines là dont tu parles, ou les data centers. Donc en fait, c'est d'une hypocrisie totale. Et je trouve qu'au final aussi, parce que c'est vrai, je suis d'accord, il y a un problème sur les espaces naturels. On est très très nombreux, et voilà, mais... Par exemple, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, comme beaucoup de choses, qu'il y ait une parole, qu'on en parle ensemble. Et c'est toujours des solutions qui viennent du haut. Et on nous dit, voilà, maintenant, ton QR code. Et c'est ça qui est insupportable. Et on nous empêche de, voilà, de créer tous ensemble le monde qu'on veut en culpabilisant. Finalement, la faute, c'est toujours monsieur tout le monde, le peuple, c'est nous, quoi. Et eux, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve ça insupportable.
D'abord, rappeler que l'ONF oblige ses salariés à faire de véritables saloperies, qu'ils en souffrent beaucoup, qu'ils ont fait un très beau film ou des prises de position assez importantes, et qu'il faut soutenir les salariés de l'ONF qui résistent à la destruction de la forêt, puisque la forêt doit devenir rentable. Une bonne partie de la forêt française appartient à des propriétaires privés, et ils ne plantent plus des arbres qui peuvent durer 200 ou 300 ans, ils plantent des arbres qui rapportent tout de suite au bout de 2 ans, 3 ans. Donc il y a déjà ça. Nous, on peut apporter notre soutien aux salariés de l'ONF qui résistent. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent, à ma connaissance, pour que la terre ou les animaux soient reconnus comme des gens qui ont des droits. C'est-à-dire qu'on reconnaisse un droit à la terre, et il y a des magnifiques livres comme ceux de Baptiste Morisot, etc. Et je ne vais pas être trop longue. La troisième chose, c'est que quand il y a des gros pollueurs, eh bien, on peut saboter. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés, les jeunes écolos, à 300, ou même peut-être un peu moins, sans prévenir, dans la bétonnière, là, enfin la farge. Maintenant, je sais qu'on les a retrouvés, parce qu'ils sont très forts pour nous retrouver. N'empêche qu'ils l'ont saboté. Ils se sont pas attaqués à des personnes. Ils n'ont fait de mal à personne comme être humain. Ils ont voulu arrêter une pollution. Et ça, c'est une piste qui est difficile à mettre en place. La preuve, on les a retrouvés des mois après. Mais c'est pas une piste à abandonner. Et là-dessus, je vous recommande comment saboter un pipeline. La dernière chose, je vais tous les étés en Espagne dans des calanques. Eh bien, en Espagne, je ne vois pas ça. Ça viendra peut-être, mais c'est juste pour dire qu'il y a peut-être des endroits, c'est en Catalogne. Hein. Les Catalans, ils ont une tradition de résistance quand même. Bon, voilà.
Je me pose la question, en ayant vu ce film que je trouve admirable, si le vrai problème n'est pas de l'incapacité de maîtriser les outils de domination. Et parmi les outils de domination, c'est évident qu'il y a l'informatique et l'accès aux données. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que si jamais il y avait un contrôle par QR code, gratuit évidemment, mais que c'était géré avec une charte de déontologie, et que les deux tiers des gens qui géraient l'accès, c'était une association reconnue d'utilité publique d'écologistes de la zone, moi ça m'irait bien. Moi ça m'irait bien. Le problème, c'est que... Mais si, parce que... La liberté individuelle, on a tous le droit d'aller quelque part, mais si on est trop nombreux à le faire dans un endroit qui ne peut pas le supporter, je pense qu'il y a vraiment un danger. Et que tôt ou tard, la planète se réduit. La planète se réduit parce que l'accès aux biens communs, la politique extractiviste est hyper dangereuse. Les problèmes de climat, les problèmes de l'eau sont hyper prégnants. Moi, je pense que l'informatique, elle obéit à ceux qui payent les développeurs. Et ceux qui payent les développeurs, c'est pas les mouvements alternatifs comme visiblement on fait tous partie ici. Et ça, c'est un vrai danger. Je pense que si l'intelligence artificielle était au service de critères sociaux, si l'écologie était au service de gens qui vivent sur un bassin de vie, on aurait des arguments avec capteurs, logiciels, données contradictoires qui seraient très très forts. Or, aujourd'hui, on nous impose le phénomène numérique comme étant quelque chose qui est dominé par les puissants, évidemment ceux qui peuvent payer les infrastructures informatiques et les data centers.
Je pense que la problématique de la sanctuarisation d'un espace naturel, enfin naturel, comme tu disais, c'est le parc naturel, il n'y a rien de plus artificiel, mais disons que d'un parc déterminé au sein d'un espace urbain ou périurbain comme étant naturel, est un véritable enjeu par rapport à la surfréquentation. Je pense que serait le parc de Yosemite aux États-Unis s'il n'avait pas été sanctuarisé d'une certaine façon, de façon artificielle. C'est un vrai enjeu. Mais ce n'est pas incompatible avec l'idée que, en dépit de la nécessité d'une certaine préservation, d'une certaine sanctuarisation, il faut voir dans quelle mesure ne se joue pas dans ce que tu as étudié, toi, avec cette mise en place de QR code, un tout autre enjeu, qui est l'enjeu de l'hypersurveillance, de l'hyperfaçabilité, de la mise en esclavage numérique des gens. Il n'est pas douteux, et je vous rejoins là-dessus, qu'il faut limiter la liberté individuelle, qu'elle soit en milieu urbain, qu'elle soit en milieu naturel, pour des raisons diverses. C'est pas douteux. Et je pense que personne ici serait contre cette réglementation-là, cette régulation-là. Ce qui se joue en revanche ici, c'est qu'on utilise, on instrumentalise ces questions, qui sont de vraies questions écologiques ici, à des fins strictement suprapolitiques, à des fins de mise en place d'un système qui est déjà dans les cartons depuis des décennies, qui est l'hypersurveillance des gens et la mise en esclavage numérique des gens. Voilà. Ce qui, d'une certaine façon, concilie vos points de vue. Je pense que vous avez raison. De ce point de vue-là, il faut préserver ces espaces naturels. Et pourquoi ? Enfin, il n'y a rien de sacro-saint dans la liberté individuelle si elle saccage tout. Mais c'est un autre enjeu qui se joue ici, là. Je pense que les gens qui font ça, les personnes qui sont en train de mettre en place ça à grand renfort de la big tech qui est derrière, hein, ils le font à d'autres finalités. Ça, je suis persuadé. Parce qu'eux-mêmes, au demeurant, sont les plus grands pollueurs, les plus grands saccageurs, ceux qui ont créé ce mode de vie, etc.
C'est intéressant de savoir que le parc des Yosemite, le premier acte de constitution, c'était l'exclusion des peuplades autochtones.
Ouais, ça, c'est horrible.
Donc ça, voilà ce que c'est un parc. Et je voulais juste dire un truc sur ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure sur la résilience. Je crois que c'est Ribot. Il a écrit une formule merveilleuse. La résilience, c'est apprendre aux gens à être résistants sans résister.
C'est juste pour dire que, enfin, un petit détail, mais que le non-sens est vraiment énorme parce qu'on continue de voir des pubs dans le métro notamment, immenses. Venez dans les Calanques en vacances, venez tous, les Calanques à portée de main, le TGV vous emmène à Marseille direct de Paris, c'est génial, c'est facile d'y aller, ça attire à fond de monde et voilà, pour au final dire sur place, surtout réservez, prenez votre QR code. Voilà.
Ouais. Je voulais dire que la technologie n'est pas neutre. La façon dont la technologie est faite et construite, il y a quelque chose d'inhérent et qui va ensuite induire des conséquences techniques. Donc le numérique, il y a effectivement la structure, comment c'est fait, il reste que c'est quelque chose qui est figé, qui va plutôt préserver l'ordre dominant et un statu quo de toute façon. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui te fait perdre en autonomie parce que tu deviens irresponsable, parce que tu prends des informations en instantanéité pour prendre des décisions, mais ce faisant, en fait, tu perds en autonomie. Par exemple, pour venir ici, j'ai regardé sur le site de la RATP pour voir le chemin. Mais je n'ai pas regardé sur une carte en disant « Mais oui, moi, je connais un petit peu, j'essaye d'apprendre. » Non, je me repose sur une application qui va me proposer l'itinéraire le plus efficient. Tu vois ? Mais on peut parler de géolocalisation aussi. Sur comment tu apprends à te repérer dans l'espace. Les gens, ils sont avec leur smartphone et ils savent pas trop, enfin, ils désapprennent plutôt à se repérer dans l'espace, à s'orienter. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, ou idiots. Voilà, mais c'est pour te dire que, en fait, le numérique, non, il faut être technocritique. Carrément.
Moi, je ne peux pas accepter l'idée que le technologique, le numérique, le scientisme, c'est automatiquement orienté. C'est fou. C'est faux. C'est l'usage qui en est fait. C'est l'usage et celui qui est dominant, qui possède l'outil. L'homme préhistorique, lorsqu'il fait un feu de bois sur une terre, sur une plage où il y a de la latérite, il découvre pour la première fois au monde qu'un objet peut être dur et non fragile. Parce qu'avant, il connaissait le silex, des objets très durs, mais ça casse. Et là, il a réduit de l'oxyde de fer, parce que la terrine, vous savez que c'est rouge, c'est de l'oxyde de fer. Il a fait du charbon, donc il a fait du coke, il a fait de l'acier. Il a fait un alliage fer-carbone. Qu'est-ce qu'il a inventé ? Il a inventé le couteau. Est-ce qu'en inventant le couteau, l'homme, il a inventé un objet pour homicide ou est-ce qu'il a inventé le scalpel pour soigner celui qui s'est piqué une épine dans le mollet et qui va pouvoir sortir? Tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est que la science, elle donne des outils, elle ne présuppose jamais l'usage qui en est fait. Jamais, jamais, jamais. Einstein n'est pas responsable de la bombe atomique.
Moi, je voulais juste dire un mot sur la science. C'est un truc sur lequel je bosse depuis quelques années. Et c'est vrai que quand on me dit la science est neutre, moi, j'ai fait des études de physique et j'ai arrêté. Et donc, j'ai arrêté parce qu'effectivement, je me suis aperçu que la science n'était pas du tout neutre. La science, c'est une idéologie qui s'est construite chez les Grecs, peut-être. La philosophie et la science, c'était au départ la même chose. C'est l'invention de la science occidentale. Et la science, c'est considérer le monde comme un objet et considérer l'homme comme le sujet qui maîtrise l'objet. C'est toute une vision du monde que tout un certain nombre de civilisations dans le monde n'ont pas partagé, ne partagent toujours pas. D'accord, on a réussi à presque toutes les éliminer, pas tout à fait, mais nonobstant, on est quand même une très petite civilisation pour un très petit espace de temps qui va peut-être pas durer très longtemps. Et je pense qu'il faut effectivement élargir le zoom et dire que la science, c'est notre arme de guerre à nous, les Occidentaux, contre tout le reste de la planète. C'est ça.
Tu évoques l'aspect idéologique de la science, effectivement, occidentale, la rationalité scientifique qui culmine avec finalement la science classique, la nature est un pur objet qu'on doit analyser et asservir, hein, ça, avec Descartes. Ouais, il faut se rendre maître et possesseur de la nature, dit Descartes. Hein. Donc ça, c'est un problème idéologique qui est vrai, qui est le tournant idéologique qu'a pris la rationalité scientifique occidentale, qui n'a pas été partout partagée. Mais le problème plus moderne qui nous concerne, peut-être qui va dans le sens que vous disiez pas, c'est que la science, aujourd'hui, elle est face à notre problème, mais depuis des décennies, c'est qu'elle est absolument inféodée à des groupes d'influence. Voilà. Que ce soit au niveau déjà de l'université, que ce soit au niveau des instituts de recherche, vous êtes certainement mieux placé visiblement que moi pour en parler. Aujourd'hui, on sait très bien que qui finance massivement les universités influentes dans la recherche aux États-Unis, par exemple, ce sont des groupes, que ce soit la pharma-industrie, que ce soit la big tech, etc. Donc, quand on met des centaines de millions pour des projets de recherche dans une université, c'est pas simplement qu'on soutient la recherche, c'est qu'on influence la recherche. On dit, voilà, on va chercher ça et on va pas chercher autre chose. Et dès le départ, c'est pipé. Dès le départ, la recherche est influencée. Donc, il y a une influence de la science qui est patente et qui, au demeurant, a créé la situation désastreuse. On l'a vu avec la crise faussement, prétendument sanitaire, où voilà, on était complètement sous le joug de la pharma-industrie qui a piloté ça dès le départ. Et par ailleurs, bon, voilà, qui a inventé Internet, c'est les militaires. Hein, c'est pas un projet civil, hein, c'est pas un projet à des fins prophylactiques, hein, dès le départ. Voilà. Donc je pense qu'il y a le problème idéologique, il y a le problème surtout politique, politico-économique, qui fait que la science, elle est sous influence. Voilà, c'est fini. C'est... Même les grandes revues scientifiques, regardez le scandale du Lancet quand ils ont publié l'article caviardé, ils sont sous influence. C'est des gens qui sont payés. Même le rédacteur en chef du Lancet le dit lui-même, on ne sait pas si on est en capacité aujourd'hui de produire un article scientifiquement objectif de Lancet, le truc de référence. Le rédacteur en chef le dit. Il dit parce qu'on est, voilà, on est sous influence monétaire. Voilà, c'est tout. C'est ça le problème.
Les États pour la recherche académique se désengagent. Et actuellement, beaucoup de programmes de recherche avec des programmes de concertation, enfin bref, sont subventionnés par des entreprises privées, ce qui est vrai. Mais je pense qu'il y a une recherche académique qui est encore désintéressée, avec des gens qui font du travail excellent, des GNIO, et qui font référence. Mais c'est vrai qu'en face d'eux, il y a un pouvoir énorme de subversion via des commissions d'influence, des subventions, des comités théodules qui orientent des axes de recherche. C'est vrai.
Mais moi, je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce que vous proposez pour limiter l'accès au parc si vous voulez pas du QR code. Apparemment, vous voulez pas du QR code. Qu'est-ce que vous proposez, tout simplement, quoi. Est-ce que si vous venez avec... votre carte d'identité, que quelqu'un note vos noms, prénoms, adresses, votre carte d'identité, tout ça, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous proposez tout simplement?
Alors moi je veux bien répondre là parce que... Alors je suis anti-nucléaire par exemple. Dans ce pays, quand tu es anti-nucléaire, on va dire « Ah oui, mais qu'est-ce que vous proposez ?» Mais en fait, c'est clair qu'on est, on n'est pas responsable. Moi, je ne suis pas responsable du nucléaire. Ils savaient très bien qu'il y aurait des déchets. Ma mère peut te dire que dans les années 70, ils ont dit « Les générations futures se débrouilleront avec les déchets nucléaires. » Donc, on n'a pas... Ce n'est pas parce qu'on critique un système ou qu'on est contre qu'on doit proposer des solutions. Ça, c'est encore les systèmes où... C'est nous qui sommes responsables et on va devoir assumer les dégâts. Ben non, je suis désolée. Et là, ce qu'elle a dit, c'est très clair. Ils sont en train de faire de la pub avec des immenses pubs dans le métro. Il y a une expo au Palais de Tokyo pour ramener tout le monde dans les calanques. Donc, quel sens ça a ? Pourquoi ils font sans cesse de la pub pour que les gens aillent dans les calanques, pour ensuite limiter le... C'est complètement aberrant, je veux dire.
Et ce qui se passe dans les calanques, c'est juste une escroquerie. Après... Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde arrive dans les calanques et se déverse sur les calanques. C'est un problème, c'est compliqué. La ville, c'est compliqué. Les parcs, c'est compliqué. Le périurbain, c'est compliqué. C'est une gestion qui... Mais simplement, tous les arguments que présente le parc sont des arguments bidons. C'est juste qu'on dit, c'est tout. On dit, là, il y a une arnaque. Et cette arnaque, elle se cantonne pas au parc des calanques. Puisque, bon, quand je parlais de la douche de 3 minutes de trop, c'est la même arnaque du genre... Oui, alors si vous étiez un peu plus sage, eh ben on arriverait à résoudre le problème. Alors que les gaspillages d'eau, les industriels et les gaspillages d'eau, c'est des monstruosités, quoi. Donc on n'a pas de solution, c'est sûr. On n'a pas de solution. Tout ce qu'on essaye de voir, c'est dénoncer les manipulations, de le penser. Et je pense que ça, c'est une arme. Quelqu'un parle de sabotage. Moi, je dirais saboter les manipulations de la pensée. Moi, c'est mon travail. C'est à ça que je me consacre à plein temps. Essayer de démonter les manipulations de la pensée. Point. Après, ben oui, je ne sais pas où on va. Franchement, je ne sais pas où on va.
Par rapport à une amorce de solution, pourquoi est-ce que les habitants sont exclus ? Pourquoi les habitants sont exclus, en fait, de la solution ? Si les habitants étaient mis dans la boucle, si... ils avaient envie de participer, parce que c'est difficile aussi, hein. La démocratie, c'est long, ça coûte de l'argent.
Est-ce qu'il y a une résistance là, qui s'est organisée ?
On m'a dit, mais je ne sais pas plus, que les habitants de Morgiou ne sont pas contents. Ceux qui habitent la Calanque d'à côté, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est que l'année dernière, c'était la première année. Hein.
Pourquoi est-ce que la solution, elle passe par le traçage, quoi ? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait imaginer, à la limite, moi, je préférerais payer pour aller dans le parc des Calanques, mais ne pas être tracé. Donc, je file ma pièce de 2 euros ou de 5 euros. Déjà, tu limites, tu vois. Et c'est aussi un moyen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le moyen, c'est toujours le traçage ? Moi, ça, je trouve ça insupportable. Ben, me sens...
Moi, ce que j'ai observé dans les Calanques, enfin, ce qui me consterne, c'est que, du coup, tu vois tous les gens jeunes qui avancent, ils ne savent plus lire... Enfin, moi, on m'avait appris à lire des cartes. À me diriger au soleil. Bon, mais c'est quelqu'un qui m'a appris. Il faut apprendre ça, hein. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est simple, mais pour nous, c'est compliqué. Et maintenant, je vois des gens qui marchent comme ça. Mais vraiment, c'est très inquiétant, quoi. Donc, et là, moi, je trouve que le parc aurait peut-être un travail à faire. Alors, c'est peut-être naïf de ma part, mais d'apprendre à lire des cartes, d'apprendre aux gens à se déplacer, de faire des courses d'orientation. Moi, j'ai des amis suédois. Ils font des courses d'orientation depuis qu'ils ont 10 ans. Ils savent se diriger au soleil. Et là, on leur apprend l'inverse. On leur apprend à se déplacer, à ramener un QR code. La grosse arnaque, pour moi, c'est réserver, c'est préserver, leur slogan. Parce que faire croire aux gens qu'en allant sur un site qui consomme de l'énergie électrique, tu participes à préserver la nature, je trouve ça dramatique. Enfin, c'est ça, c'est les arnaques complètes qui me posent problème.
Enfin, tu vois, le Platane, c'est une association qui a vraiment bossé sur le sujet. C'est un groupe qui a vraiment bossé sur le sujet, qui a fait un travail énorme sur toute l'histoire des Calanques et sur tous les problèmes de pollution, sur toutes les décisions politiques qui ont été prises. Ils auraient dû être pris comme partenaires par le parc des Calanques, évidemment, pour trouver des solutions. Jamais ça se fera. En fait.
Il y a un documentaire que vous pouvez voir qui s'appelle « Les Bouts Rouges ». Ça dure qu'une heure. Et c'est depuis 30 ans. Il y a eu plusieurs ministres en France qui se sont battus contre, dont Ségolène Royal. Et chaque fois, le Premier ministre a dit non, il faut continuer à autoriser parce qu'ils fabriquent de la bauxite. Donc moi, c'est ça, c'est les disproportions qu'il y a entre déverser 30 tonnes pendant des tonnes et des tonnes de métaux lourds, d'arsenic et compagnie. Si tu veux, c'est pour ça que tu ne peux pas dire à un Marseillais, alors que les eaux usées se déversent, qui savent très bien qu'il y a 30 tonnes qui sont déversées depuis les années 60, même Cousteau avait fermé sa... parce que c'est les intérêts de l'armée, parce que ça touche trop haut. Tu ne peux pas dire à un Marseillais, viens avec ton QR code, parce que c'est disproportionné. Enfin, moi, j'ai essayé de comprendre ça, j'ai essayé d'avoir des discussions. Tu vois, après, il y a la Cayolle, qui est un quartier d'anciens réfugiés, donc un quartier pauvre, hein, qui était un quartier d'émigrés. Bon, ils ont commencé à emmerder les gens et à leur dire, vous n'avez pas le droit de cueillir du thym. Et donc, on humilie des gens qui cueillaient du thym dans la colline. Et à côté de ça, on autorise les bouts rouges, on autorise la construction de cages. Et il y a aussi une autre question que je n'ai pas abordée parce que je n'ai pas les preuves. Mais à Sugiton, il y a beaucoup de mômes qui viennent des quartiers nord pour sauter des rochers. Parce que tu as différents strates, tu peux sauter de 20, 25 mètres. Moi, je pense franchement qu'on veut éliminer ces personnes-là. Parce que ça crée deux tourismes qui n'ont rien à voir. Enfin, on ne peut même pas dire tourisme. Mais t'as les riches allemands et compagnie, hein. Voilà. Et puis t'as ces mômes qui crient en sautant des rochers toute la journée. C'est pour ça que moi je ne serais pas pour une entrée payante, parce que ces mômes-là, ça les élimine d'entrée. Pourquoi, si tu veux limiter la fréquentation de Sugiton, tu crées, il y a 2 ans, une école qui double le campus, enfin,
pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastille, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.